Bonjour à tous et à toutes. Je suis Frédérique Cordier, enseignante de SVT en lycée au nord de Lyon, chargée de mission auprès de l'IFE pour assurer la coordination du réseau d'ELEA. Merci de nous rejoindre pour la première rencontre virtuelle d'ELEA. L'ELEA, ce sont des lieux d'éducation associés à l'IFE. Ils regroupent des acteurs de l'éducation, dont l'enseignement général, technique, professionnel, agricole et même associatif, avec des équipes de recherche et qui travaillent autour d'une problématique commune. Acteurs éducatifs et chercheurs travaillent alors main dans la main, de manière expérimentale, collaborative, et créent ainsi de nouvelles conditions pour l'innovation pédagogique. Cette recherche par, avec et pour le terrain est l'ADN du réseau d'ELEA. Fort des résultats obtenus, le travail effectué à l'échelle d'un réseau d'établissements peut s'essaimer sur un bassin plus large, à l'échelle nationale, internationale, et les ressources produites sont diffusées sur l'ensemble du territoire et au-delà. Chaque année, l'ensemble des porteurs de projets, plus d'une trentaine chaque année, 34 projets cette année précisément, se réunit lors de deux temps forts, le séminaire de rentrée et la rencontre nationale d'ELEA en mai. Ces temps forts sont l'occasion d'approfondir la réflexion sur un thème, mais aussi de partager les travaux réalisés et travailler entre porteurs de projets différents. Ces rencontres permettent de tisser de nouveaux liens, de faire émerger de nouveaux projets. Pour la première fois cette année, une partie de ces objectifs va être repoussée, en particulier la valorisation des travaux, car notre réseau, tout comme l'ensemble des personnes sur le territoire, se retrouve confiné et en parallèle assez occupé par la continuité pédagogique. Il nous a donc semblé important de redéployer nos méthodes de travail et sur les questions que la situation a générées. Pour cela, depuis plusieurs semaines, nous avons sollicité les membres du réseau d'ELEA afin qu'ils nous fassent partager leurs ressentis, leurs questions, leurs doutes durant cette période. Les réponses ont été centralisées sur un Padlet partagé. Le réseau d'ELEA accueille aujourd'hui Françoise Cross, professeure des universités honoraires au Centre de recherche sur la formation et au Conservatoire national des arts et métiers. Françoise Cross fait de l'innovation pédagogique dans l'éducation et la formation son objet de recherche. Elle devait intervenir sur le thème du pilotage des établissements entre recherche et innovation dans le cadre de la rencontre d'ELEA en présentiel. Elle a accepté très gentiment de modifier son intervention et de se plier à un exercice inédit, réagir avec son expérience, ses connaissances, sur les thématiques que les correspondants Léa et Yffé ont dessinées au travers de leur vécu d'enseignant ou de chercheur, de leur vécu de correspondant et au travers de leurs travaux de leur Léa. Bonjour Françoise Cross.
Bonjour.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence. Et peut-être, pouvez-vous vous présenter auprès de nos membres, auprès des membres de notre réseau?
Oui, merci beaucoup de me passer la parole, Frédéric. Eh bien, je tenais essentiellement à vous remercier de m'avoir invité à échanger avec vous et à accepter de récolter les questions qui, pour vous, actuellement, sont les plus brûlantes, les plus importantes. Surtout que ces questions, je suppose qu'elles relèvent de situations actuelles qui sont complexes. Et je trouve un plus grand intérêt pour vous et pour moi à aborder plutôt ce qui vous intéresse, au lieu de préparer un exposé qui ne vous aurait peut-être pas satisfait, ou à moitié, ou voire pas du tout. Donc, on avait pensé avec Monsieur Trouche, pardon, à faire autre chose, puisqu'on dit que plus rien ne sera comme avant. Prenons la balle au bond. Et que nous fassions preuve, nous aussi, d'innovation en nous inspirant de ce qui se fait quelquefois en faculté ou auprès des adultes, c'est-à-dire le principe, non pas de la classe inversée, mais de la classe renversée. C'est-à-dire que là, de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit de faire ça avec des adultes et de demander aux adultes de construire le contenu à partir de ce qu'ils ont comme consigne large et doivent ensuite, en groupe, préparer ce contenu sous forme de questions, sous forme même d'apports ou d'informations, et en discute avec l'enseignant, et même quelquefois, l'enseignant est beaucoup plus piégé que s'il avait préparé son exposé, tout bien lissé, tout bien beau. Et donc cette innovation, elle est très appréciée par les étudiants, et je pense qu'elle va être aussi appréciée par vous, parce qu'elle permet d'avoir quelque chose de vivant. Et là, on fait preuve d'innovation. On prend des risques, c'est sûr. On risque de dire des bêtises, peut-être. Mais c'est ça, justement, qui fait le piquant de nos échanges. Et je pense que là, c'est à travers ces questions, Et bon, parce que je suis loin de répondre à toutes ces questions, vous vous en doutez. Donc, je le ferai avec beaucoup de sincérité et avec mon expérience, de ma place de chercheur, de mes expertises internationales, que j'esquisserai des réponses qui d'ailleurs enverront plus à des questions et à des réflexions hein, qu'à des réponses vraiment fermées. Je n'ai pas d'autorité, comme vous en doutez, d'inspecteur, je n'ai pas d'autorité d'administratif, je n'ai pas d'autorité de chef d'établissement. Donc mon travail sera celui de vous communiquer les fruits de mon observation, ce qui se passe dans les écoles, les collèges, les lycées, de manière à interroger les événements significatifs et leurs insertions dans le tissu social plus large. En effet, comme l'a dit Frédéric, je suis très intéressée, très focalisée sur les pratiques innovantes. La question que je pose, c'est comment elles se font, pourquoi se font-elles, quels sont leurs effets. Et là, ma démarche à moi est beaucoup plus psychosociologique, avec une petite dose d'historicité pour comprendre comment l'innovation évolue, comment elle s'inscrit dans la société. Et donc, j'ai travaillé sur ce processus d'installation des innovations pédagogiques avec leurs effets sur le changement des systèmes éducatifs dans différents pays. La France, bien sûr, hein, c'est mon pays d'attache, mais aussi le Maghreb, tout ce qui est Afrique du Nord et tout ce qui est Afrique subsaharienne, plutôt francophone. Quoique je travaille maintenant au Soudan, mais c'est plutôt francophone. Donc, c'est de ce point de vue-là que je m'adresserai à vous avec beaucoup plus de sincérité que la préparation d'une conférence, peut-être une belle conférence, bien lissée, mais qui n'aurait pas cet intérêt de l'interactivité comme en classe.
Merci. Et du coup, je vous propose de vous présenter les questions qui ont émergé de notre réseau. Et je vais prendre la parole en premier avec peut-être un regard plus enseignant. Puisqu'en fait, au tout début du confinement, beaucoup d'enseignants se sont plaints que les institutions, donc chefs d'établissement, inspecteurs, n'avaient pas envoyé d'instructions claires. Et à l'opposé, on a eu des retours un peu plus tardifs de collègues qui ont eu des instructions tellement restrictives, des consignes tellement strictes, qu'elles ont pu empêcher ou ralentir la mise en place du travail avec les élèves. Par exemple, des collègues qui travaillent sur des projets de classe virtuelle et qui ont eu l'interdiction de les utiliser au prétexte qu'elles peuvent créer une rupture d'égalité entre les élèves. Et en discutant de ce point avec une amie chercheuse, celle-ci m'a fait la remarque qu'il faudrait peut-être se poser la question du regard que nous portons sur les prescriptions des institutions, puisqu'en fait on attend beaucoup d'instructions, mais est-ce vraiment pour les suivre, puisque finalement on a pas mal de prescriptions qui arrivent plutôt en horizontal. Et du coup, ma question, c'est quel regard les acteurs du système éducatif, pour vous, portent-ils sur la légitimité de prescription des institutions? D'où viennent les prescriptions légitimes?
Oh, elle me piège là! C'est une question brûlante et très très intéressante, qui me passionne d'autant plus qu'elle porte vraiment sur mes objets de recherche. Institutions et innovation. Donc, si vous voulez, comme je viens de vous le dire précédemment, mon objet de recherche, c'est l'innovation, notamment l'innovation pédagogique, bien sûr, mais je regarde peut-être pas ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire exactement ce qui se passe en termes de pédagogie, en termes de relations entre les élèves, en termes, bien sûr que je le regarde, mais je regarde pas le contenu. Par exemple, je fais pas de didactique. Je ne regarde pas si la didactique du français est tout à fait correcte ou didactique de mathématiques, mais c'est plutôt comment cette nouvelle activité, elle se met en place, comment ça se déroule, comment quelquefois ça ne se déroule pas d'ailleurs, comment ça pose un certain nombre de questions et comment ça perturbe tout le système. Alors d'abord peut-être revenir sur l'espèce de hiérarchie qui, c'est une hiérarchie centralisée, qui habite notre système éducatif. Il n'est pas le seul d'ailleurs à être centralisé et je pense que chaque responsable à l'échelle nationale a besoin quand même d'indices. Ne serait-ce même, comme vous l'avez évoqué, Frédéric, le pilotage du système, il en faut un. Hein, parce que ce qui se passe au niveau local, il faut savoir prendre des décisions à des niveaux supérieurs et pour cela, donc, disposer d'un certain nombre d'indices et d'avoir un tableau de bord. avec des indicateurs les plus simples et les plus lisibles possibles, qui correspondent pour celui qui est responsable à son niveau de responsabilité, de possibilité de manœuvrer, de manœuvre, plus ou moins comme un tableau de bord finalement de voiture. C'est ce qu'on appelle le pilotage. Bon, dans l'éducation, ce pilotage-là se fait très souvent, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, sur les parties quantitatives. On a le nombre d'élèves, le nombre d'enseignants, le nombre de salles, le nombre de locaux. C'est aisément recueilli en France et ça, c'est nécessaire pour avoir une vue d'ensemble du système éducatif. Mais il reste la partie plus complexe, plus qualitative et je dirais plus intéressante pour l'apprentissage des élèves, celle des indicateurs d'apprentissage et de développement des élèves. Alors, depuis des décennies et des décennies, les pouvoirs tentent de rendre ces apprentissages et ces développements éducatifs qui sont pleins de complexité, ils essayent de les rendre quantifiables par des chiffres, par des pourcentages, par des comparaisons, en faisant passer aux élèves des tests, en ayant des grilles d'observation. Mais comment peut-on piloter ce qui est, par exemple, l'amour de l'apprentissage, l'amour de la lecture dans l'apprentissage, les motivations des élèves? C'est extrêmement complexe. Et là, au niveau central et au niveau supérieur, je crois que les responsables n'y peuvent mais. Donc, la question est encore plus aiguë lorsqu'il s'agit d'innovation. Là, il n'y a plus du tout de repère. C'est-à-dire que les enseignants, ils ne font pas des choses identiques à ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, ils ne le font jamais. Il n'y a jamais de reproduction d'une pratique sur une autre. Donc, quand on dit que les enseignants n'innovent pas, ce n'est pas vrai. Seulement, il y a l'ampleur de l'innovation, il y a l'ampleur de la transformation. Et finalement, et comment un responsable institutionnel peut-il piloter cela? Comment peut-il piloter de telles pratiques enseignantes? Est-ce réalisable? Alors, il y a des pressions sociales, il y a des pressions financières de la part du pilotage supérieur qui obligent à recueillir le minimum d'informations fiables pour pouvoir piloter. Sinon, il n'y a aucun pilotage et ça peut être un peu, ça part dans tous les sens. J'irais même, c'est assez subtil parce qu'il y a même des pilotages de manière indirecte qui sont horizontaux, qu'a évoqué d'ailleurs Frédéric. Et quand c'est une période de calme plat, ça peut aller. On a à peu près les indices, les indicateurs, on se débrouille, on a l'inspection, on a tous ces gens-là. Mais lorsque la tempête surgit, alors là, le gouvernail s'emballe. Il part soit dans un abandon du capitaine, soit dans des injonctions les plus contradictoires, voire impositives jusqu'à l'étouffement. C'est une expression aussi d'inquiétude. Donc, dans une vision fantasmée qui ferait calquer une pratique réelle, d'ailleurs, à une pratique prescrite, souvent la machine huilée du pilotage déraille, elle est déboussolée et elle produit des prescriptions totalement inadaptées que vous avez reçues ces temps-ci. Et le pilotage perd toute légitimité au regard des acteurs. Je crois que c'est d'ailleurs un bel exemple que l'irruption du Covid-19. Alors, dans mes travaux d'innovation pédagogique, le pilotage au niveau national a toujours été malaisé, pas facile, non fondé sur des statistiques, non fondé sur des résultats objectifs, indépendants des acteurs de l'innovation. Comment peut-on quantifier l'enthousiasme des enseignants? Comment peut-on quantifier leur amour du métier? Comment peut-on quantifier leur engagement? On doit donc situer ce pilotage au niveau où il doit être. Et on a l'impression que finalement, dans ce qui se passe et dans ce que vous venez de me dire, Frédéric, dans cette contradiction à la fois, on a trop de pilotage, on n'en a pas assez, etc. C'est finalement qu'on voudrait avoir quelque chose qui soit quand même, qui puisse nous donner un cadre, mais qui nous laisse quand même une certaine liberté. Et c'est un petit peu le jeu qu'il y a toujours eu entre les innovations et l'institution, d'ailleurs, c'est « je t'aime, moi non plus ». Il faut de l'instituer, mais il n'en faut pas trop. Et quel est le juste équilibre? Et c'est bien là qu'est toute la difficulté. Et la contradiction des demandes, d'ailleurs, rend opaque ce pilotage. Alors, peut-être pourrions-nous revenir sur ce que nous entendons par « institution ». Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté ou même d'incompréhension autour de l'institution avec une espèce de fantasmatique de l'institution. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'institution? L'institution, ça n'est pas l'organisation. L'organisation en découle partiellement. L'institution est construite à partir des personnes. Elle se comprend à travers leurs normes, à travers leur langage, à travers leur façon de se comporter, à travers leurs croyances et leurs émotions. Autrement dit, nous sommes l'institution. Nous fabriquons de l'institution. Ce n'est pas un préconstruit qui est extérieur à la personne et encore moins extérieur aux enseignants. Chacun d'entre nous, nous sommes producteurs de ces éléments et collectivement, nous les avons stabilisés pour réguler l'ensemble de nos interactions sociales. Sinon, il n'y aurait pas de société, il n'y aurait pas de vivre ensemble. Donc, l'exemple le plus souvent donné en sociologie, et ça j'enfonce les portes ouvertes, c'est le mariage. Le mariage, c'est une institution qui a été construite au cours du temps, comme le Pax, mais ça peut très bien être démoli. C'est-à-dire que l'institution, elle peut toujours être remise en cause. Et cette remise en cause, finalement, c'est le jeu entre ce qu'on peut appeler l'instituant et l'institué. Alors, si nous extrapolons sur les initiatives des enseignants, sur ce qu'ils font, eh bien, ce sont des éléments instituants. C'est-à-dire qu'ils questionnent le fonctionnement actuel de l'école avec ses règlements, ses statuts, son droit, et il peut y avoir une acceptabilité plus ou moins grande de cette institution qui est finalement le plus commun dénominateur de ses normes, de ses croyances, de ses langages, de ses comportements des individus qui constituent la dite société et qui constituent aussi le système éducatif. Alors, il existe toujours, et tant mieux, il existera toujours des personnes qui sont en désaccord avec ces normes, qui sont des normes instituées qui nous permettent de nous asseoir et de comprendre où nous sommes, ce que nous faisons. Mais à leur tour, elles produiront une institutionnalisation avec des nouvelles normes qui seront acceptées par la majorité. Donc, c'est ce jeu-là qui est un jeu subtil qui fait « je t'aime moi non plus, mais j'ai besoin de toi tout en te refusant ». Tout en pensant que tu n'as pas écouté ce que je disais, mais il faudrait quand même que tu me dises ce que j'ai à faire. Donc on est là dans une espèce d'échange qui est très très difficile quelquefois, s'il n'y a pas d'intercompréhension entre ces niveaux, avec des exagérations d'ailleurs de part et d'autre. Hein. Alors, bon, il se trouve, comme vous l'avez dit, que j'ai vraiment travaillé ça uniquement au niveau de l'innovation. Et j'ai regardé finalement qu'une innovation, elle émerge dans un établissement scolaire, dans un réseau d'établissements. C'est l'ELA dont a parlé aussi Frédéric, c'est la production d'innovation pédagogique. Et elle va être d'ailleurs plus ou moins tolérée par le milieu. Milieu immédiat et milieu plus large. Et nos recherches ont abouti après observation de beaucoup, beaucoup d'innovations diverses qu'elles avaient trois destins, trois futurs. Le premier, c'est souvent les innovations, si on arrête un Léa, c'est pas sûr qu'il continue, parce que là il est financé, il est soutenu institutionnellement, et si on le laisse marcher de sa propre gouverne, ce n'est pas évident qu'il continue, soit parce que le chef de groupe part à la retraite, parce que tel autre est muté, parce que tel autre encore est malade, etc. Donc c'est très lié aux individus, et tant que cette innovation n'a pas pris une certaine ampleur, elle va mourir, elle va disparaître. Et nous avons dans le système éducatif, je les avais comptées à un moment donné, toutes les innovations qui sont nées et qui sont mortes, qui ont disparu. Donc il y a des tas de choses. Nous sommes dans un système éducatif avec plein de bulles, des petites bulles d'oxygène qui sont des petites bulles innovatives. Et puis il y a le deuxième élément, c'est des innovations que j'ai observées dans certains collèges, dans certains lycées, qui s'enquistent. C'est-à-dire qu'il y a une équipe pédagogique qui a pris en charge une innovation qu'elle trouve bien, c'est de l'interdisciplinarité, c'est l'introduction du théâtre, c'est la remise en question de l'apprentissage de la littérature ou des mathématiques. Et là, donc, elle s'épanouit, elle est relativement bien tolérée par les autres, qui n'y voient pas d'inconvénients, mais qui n'y voient pas non plus d'intérêt, si ça les amuse après tout qu'ils continuent. Et donc, on a une innovation qui risque, moi j'ai vu des innovateurs, ça me fait toujours rire parce que c'est tellement en contradiction. Ça faisait 20 ans qu'ils innovaient. Bon, pourquoi pas, après tout. Enfin, on ne peut pas dire que c'est ça qui va transformer le système éducatif. Et puis, vous avez l'innovation qui, elle, s'institutionnalise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle se transforme en routine. Et c'est peut-être le meilleur des sorts qu'elle puisse souhaiter. Parce qu'à ce moment-là, elle devient la norme pour l'ensemble de l'enseignement. Et c'est vrai que quand on observe le système éducatif depuis, comme le fait Antoine Prost, depuis pas mal de siècles, on se rend compte finalement que l'école d'abord a beaucoup changé, contrairement à ce qu'on dit. On dit l'école ne bouge pas, c'est pas vrai. Elle bouge énormément, elle se pose énormément de questions, elle évolue. Et ce sur quoi nous vivons à l'heure actuelle, ce sont d'anciennes innovations qui sont devenues des routines. Par exemple, le fait de constituer une classe d'élèves du même âge, du même niveau, avec un professeur, découpé en disciplines, eh bien ça, c'est une innovation qui s'est routinisée. Et finalement, maintenant, ça devient une évidence. Une école, on la voit découpée en groupes d'élèves du même âge, du même niveau, la discipline, et ça s'est répandu. Et pourtant, à l'origine, c'était une innovation parce qu'il y avait les discussions entre ceux qui avaient l'enseignement mutuel et ceux qui étaient contre. Et donc, il y a eu toute une controverse, des discussions, des gens qui disaient « je manque d'autonomie, je ne peux pas faire ça, j'aurais voulu faire de l'enseignement mutuel, etc. » Et à un moment donné, ça se généralise. Alors, je suppose que quand vous parlez d'institution, vous parlez plus d'organisation de la société, d'organisation de sa gouvernance. Et là, nous sommes sur un autre registre, celui de la hiérarchie et de son pouvoir d'imposition. Parce que les individus ont des relations extrêmement ambiguës à propos de la hiérarchie. Ils y cherchent un statut protecteur, bien sûr, mais il est évident que la société française est plus jacobine que girondine. Donc la culture de la France est celle du pouvoir central. On en réclame et on n'en veut pas. On veut d'un roi, on veut un empereur, et puis on n'en veut pas. Donc on fait naître une culture vraiment difficile à gérer. Et c'est aussi, c'est quasi une révolution qu'il faudrait faire sans doute, qui dure depuis des siècles et des siècles, et que les Français d'ailleurs ont du mal à réformer en douceur. Alors, comme je vous disais, l'institution est constituée de nos us, de nos coutumes, établies depuis de nombreuses années. Et la crise qui est intéressante maintenant dans la question que vous avez posée, Frédéric, c'est justement l'arrivée du Covid-19. C'est que nous vivons une crise qui repose sur une question qui pose en plus la question de la légitimité de ce que nous avons eu jusqu'à présent, des personnes qui nous ont considérés, qui ont travaillé avec nous, et nous essayons de produire autre chose. Et c'est là que c'est difficile, parce que le processus de création d'une institution renouvelée, voire considérablement modifiée, demande du temps, parfois plusieurs générations. Et ce décalage entre une volonté de renouvellement et la réalité, la pesanteur de la réalité, provoque des révoltes, des agacements. Surtout si certains se sentent peut-être, et vous avez dû l'observer, plus représentatifs de l'institution que d'autres. Donc la politique dans son sens de décision de responsabilité centrale, souvent avec des représentants élus d'ailleurs, prend des formes parfois laxistes, parfois autoritaires, selon les inclinaisons de ses responsables. Et en période de crise actuelle, celle que nous vivons, les choses ne paraissent plus aussi évidentes et sont questionnées dans leur pertinence. Et c'est cela qui fait la richesse de notre temps présent. Je pense que c'est là cette histoire de gouvernance qui est tout à fait passionnante et qui fait que notre gouvernance actuelle s'est complètement emballée. Soit en autoritaire, soit en laxiste, soit en déchargeant, il y a quelque chose, ils ont perdu leur boussole. Et là, il va y avoir une reconstruction extrêmement forte à faire, à réaliser. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ah, si, tout à fait, c'était passionnant. Et merci beaucoup pour votre réponse. Je vais laisser la parole à Catherine Loisy, qui est maître de conférence habilitée à diriger des recherches en psychologie en sciences de l'éducation. Ses travaux portent sur le développement professionnel des enseignants, notamment des enseignants du supérieur, et elle a été impliquée dans le réseau des Léa dès son origine. Elle étudie les trajectoires de développement dans les contextes de transition. Catherine, c'est à vous. Alors, mes questions portent sur la liberté pédagogique et l'autonomie. Avec l'organisation du travail à la maison pendant la période du confinement, de nombreux curseurs semblent s'être déplacés. L'enseignement-apprentissage s'est organisé de manière différente, avec une implication quasi nécessaire des parents. En raison du travail à distance permise par l'utilisation des technologies numériques, les enseignants ont été confrontés à la nécessité de traquer l'implicite dans les contenus transmis, dans les consignes. L'évaluation sanction, au sens assez classique, a pu être questionnée pour aller vers une approche plus formative, notamment après l'intervention du ministre de l'Éducation. De nouvelles activités ont pu questionner la relation entre l'individuel et le collectif. Voici mes questions. Comment cette situation met-elle en tension l'autonomie pédagogique et les prescriptions institutionnelles? Vous avez déjà donné des éléments. En quoi cette situation inédite se révèle-t-elle émancipatrice pour les enseignants et pour les élèves? Chez les élèves, par exemple, on a parfois vu émerger de nouvelles pratiques d'apprentissage collective. Comment pourrait-on les prendre en compte? Pour les enseignants, que peut-on dire du développement de leur agir pédagogique, du renouvellement de leur compréhension du monde et de leur compréhension de leur propre manière de fonctionner? Et puis, à l'appui de ces changements, comment conserver ce qui semble mieux fonctionner en sortie de crise et en quoi la fin de la crise peut-elle marquer un renouveau utilisant ses ressorts?
Merci beaucoup pour cette belle question, très riche aussi. Effectivement, là, le développement des enseignants, comme j'ai été directrice adjointe d'un IUFM, et vraiment, ça me passionne, la formation des enseignants. Là, vous avez touché un point extrêmement fort sur lequel, je pense, on n'a pas assez joué. La formation initiale et la formation continue ont été complètement bouleversées, complètement chamboulées. Et même à l'heure actuelle, je trouve que c'est même maltraité, je dirais. Maltraité, quelque chose qui est fondamental pour le système éducatif, qui est la formation. Et je trouve finalement que les enseignants, mais je tiens à souligner quand même que vous aurez observé que les enseignants ont quand même été les premiers en ligne, mais également ceux qui ont été le plus adulés, parce que moi j'ai entendu beaucoup de conversations de parents qui disaient « Ah mais oui, on ne peut pas s'improviser enseignant ». Or, à certaines réunions de parents d'élèves, j'avais entendu des gens qui disaient « Mais l'enseignement, l'éducation, je connais, je sais faire, j'élève mes enfants, je les éduque ». Donc là, nous sommes dans un renversement de représentation de la part des parents d'élèves qui est extrêmement salutaire pour les enseignants. Enfin, ils sont reconnus dans leur professionnalité. Enfin, ils sont reconnus comme étant des gens dignes de compétences professionnelles. Et pour moi, ça a été quelque chose de très, très fort. Je pense que ça sera du mal à changer. Parce qu'il y aura toujours une petite nuance qui dira « Ah, vous voulez pas de nous ? Eh bien, prenez vos enfants chez vous. » Et d'ailleurs, j'ai une collègue qui est inspectrice primaire qui va évaluer les écoles, enfin les enfants qui ne vont pas à l'école, vous savez, qui sont enseignés par leurs parents. Et elle me dit, mais parfois c'est désastreux, c'est désastreux. Donc l'école, elle est le fondement même, je dirais, de la société. Et là, ça a joué un rôle extraordinaire. Alors, pour ce qui est de l'autonomie des enseignants, qu'est-ce qui va rester de cette crise finalement? Je pense déjà que les enseignants, contrairement à ce qu'ils pensent, et je pense que s'ils pensent comme ça, c'est peut-être parce qu'ils sont plus sensibles à tout ce qui serait injonction contradictoire. Les enseignants ont une relative liberté dans leur pratique pédagogique. Je me rappelle, j'avais travaillé en Corse et il y avait deux classes qui étaient séparées par une armoire. On avait bouché une grande porte et on avait mis l'armoire. Et il y avait une enseignante qui me disait toujours « mais je ne peux pas travailler avec ma collègue ». Je dis « bouge l'armoire ». On a bouché l'armoire et après, ils ont travaillé tout. Ah oui, mais je pensais que ce n'était pas possible, qu'il fallait que je demande à l'inspecteur de circonscription. Enfin, vraiment, il y a quelquefois une autorité qui est fantasmée dans la tête des enseignants et qui peut très bien être, c'est l'ange exterminateur finalement. Hein. On peut sortir, mais tout le monde a dit qu'on ne pouvait pas sortir. Donc, moi, je pense que toutes ces prescriptions, d'ailleurs, vous aurez remarqué, alors moi, ça m'a frappé, mais je ne sais pas si vous, ça a été la même chose, mais c'est intéressant de voir le silence des recteurs, le silence des inspecteurs. Finalement, c'est les enseignants qui ont initié, qui ont lancé ce problème et ces pratiques pédagogiques. L'inspecteur était pratiquement plus là. Ils étaient absents, ou tout au moins en ligne arrière par rapport aux enseignants. Et ça a été tout à fait intéressant. Alors, je crois que ce qu'a fait l'arrivée de ce virus, c'est que ça illustre à merveille la transformation même des pratiques pédagogiques. Ça, incontestablement, certaines pratiques d'ailleurs étaient revendiquées par certains. Déjà, certains enseignants, moi je me rappelle, je suis allée à Ludovia, à Eidos, il y avait des enseignants passionnés de numérique, passionnés d'enseignement à distance, donc ça couvait déjà dans l'école. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui a surgi de tout à fait nouveau. Ça a été tout à fait nouveau pour certains enseignants qui ne s'étaient pas confrontés à ça. Mais ça a été plus mollement refusé par d'autres parce qu'il n'y avait pas moyen. Et ça a été opéré beaucoup plus, et là c'est intéressant pour moi, travaillant sur l'innovation, sous la contrainte. Il y a une contrainte, il y a l'arrivée d'une pandémie qui a fait top, on change radicalement. Et c'est un peu ce que François Dubé, moi j'ai beaucoup aimé son membre de phrase, il a dit « c'est une étrange ruse de l'histoire ». Il nous est arrivé ça, ce virus. Et ce dernier, l'arrivée de ce virus, a réalisé ce que ni les politiques, ni les innovateurs, ni les syndicats n'ont été capables d'accomplir. L'utilisation majoritaire de l'informatique comme vecteur d'apprentissage. La mise en place du contrôle continu. Vous imaginez un peu les années de bagarre, les années de propositions qu'on économise. Je ne veux pas dire qu'il faudrait des pandémies chaque année, mais je veux dire par là que c'est intéressant. Finalement, tout cela, le contrôle continu, l'enseignement à distance est passé, bon, peut-être pas comme une lettre à la poste, mais quand même c'est passé sans possibilité de revendication, hein, sans prise sur un ennemi externe hein, qui met dans l'obligation de passer à autre chose. L'ennemi, qu'est-ce que c'était? C'était la pandémie. À qui peut-on s'en prendre? À qui peut-on revendiquer? Donc, on était là dans une obligation, et c'est tout à fait intéressant parce que ça illustre l'innovation. Souvent, on innove dans l'obligation. Hein. On pense pas à ça, mais c'est souvent ça. Donc, très, très peu d'enseignants, finalement, ont refusé. Hein. Ils ont reconnu d'eux-mêmes l'incontournable nécessité d'utiliser les ordinateurs, les mails, voire, ce qui était tout à fait intéressant, le téléphone. Ils téléphonaient aux élèves, ils étaient d'ailleurs pris dans le jeu du sens du travail, bien fait, de l'imagination, des échanges avec les collègues. Ils n'ont pas économisé leur temps, et ils ont contacté quelquefois chaque élève, moi je pense que ça c'est superbement intéressant. Ils envoyaient des travaux à distance, ils créaient des chats auprès d'élèves, surtout les lycéens d'ailleurs qui étaient ravis. Eux qui utilisent quotidiennement l'Instagram, le Facebook et que sais-je encore, pour eux c'était merveilleux. Et ce que les autorités auraient voulu lancer, eh bien le virus l'a accompli sans houle excessive. Donc certains enseignants même se sont pris au jeu et c'est pas sûr qu'une fois le calme revenu, ils ne réutilisent pas ce qu'ils ont appris avec l'enseignement à distance. Les enseignants n'avaient pas le choix. Et je constate d'ailleurs que les innovations les plus hardies, les plus transgressives, émanent d'enseignants qui ne peuvent plus continuer à faire leur métier comme avant, tant les contraintes sont fortes. Nous avions observé, par exemple, dans les établissements REP ou les établissements ZEP, aller faire un cours classique, un peu magistral, même si on a une petite dose de ludique ou des choses comme ça, eh bien, vous n'arriverez pas. Donc, à un moment donné, l'enseignant acculé, il a dû innover. Il a dû produire avec l'équipe, en équipe, des trésors d'imagination pour motiver les élèves, pour les impliquer dans leur apprentissage et pour ne pas les laisser au bord de la route. Et je trouve que là, on se trouve dans ce cas de figure, ce même cas de figure qui est extraordinairement fécond. Cette liberté pédagogique dont nous parlons est une liberté dans la mise en place d'une action inédite, mais pas dans un contexte de liberté, bien dans un contexte de contrainte, ce que refusent souvent les enseignants. Chacun donc a placé son autonomie, se donner des règles à soi-même, dans ce cadre contraignant. Finalement, la pédagogie ne serait-elle pas à l'image de ce qu'évoquait d'ailleurs André Gide à propos de l'art, qui naissait de contraintes, vivait de lutte, mais attention, mourait de liberté. Donc là, nous sommes vraiment dans la capacité de faire de nouvelles choses, mais cette espèce d'inscription dans la routine, cette espèce d'inscription dans le ronchonnement contre l'institution et l'institution qui fait un poids, fait que finalement, on annihile un certain nombre d'innovations que les enseignants ont d'ailleurs en eux, mais qu'ils ne mettent pas en œuvre, et là qu'ils ont été obligés de mettre en œuvre. Donc, c'est bien là la question qui se pose maintenant, c'est une fois la paix revenue. Comme vous posiez la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un retour en arrière? Est-ce qu'on adoptera les initiatives? On ne peut pas dire, je n'ai pas de boule de cristal, donc peut-être considérera-t-on que l'école, révélée indispensable aux uns, maintenant on peut s'autoriser un certain nombre de choses, parce que moi je considère que les enseignants, d'ailleurs, ils devraient être traités comme les infirmières, mais enfin bon, ça c'est un aparté, c'est-à-dire on devrait reconnaître beaucoup plus leurs compétences, ils sont moins payés que les gens de l'OCDE aussi. Bon bref, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là, mais là on a vraiment, il faudrait sauvegarder ces nouvelles initiatives et pouvoir les insérer justement dans un principe beaucoup plus routinisé. Et là, c'est toute la question. Mais je trouve que cette période est splendide, merveilleuse de découvertes. Moi, j'ai écrit un petit papier pour mes collègues suisses qui parle justement de ce qui a pu émerger chez les élèves, l'émerger de la conscience de la mort. Parce que finalement, dans leur famille, on a parlé, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et que finalement, cette interrogation va aussi pénétrer l'école, alors que c'était un interdit et un impensé. On est, on vit et on meurt. Et finalement, c'est un rapport à la mort qui se joue, et je crois que l'école peut saisir cette balle au rebond et retravailler là-dessus, avec nature, culture, tous ces éléments-là, qui vont maintenant entrer, pénétrer dans l'école. Il y avait donc ça, et puis aussi le fait que l'interactivité, les relations avec les parents d'élèves ont été peut-être beaucoup plus fécondes, beaucoup plus développées, avec une intercompréhension beaucoup plus forte. Je ne sais pas si j'ai répondu, Catherine, à vos
questions. Je vous remercie, Françoise, c'était parfait, vraiment très intéressant.
Vous êtes gentille, merci de votre indulgence.
Et du coup, nous allons laisser la parole à Luc Trouche. Donc Luc Trouche, qui est professeur des universités émérites à l'École normale supérieure de Lyon, dans le champ de la didactique des mathématiques. Il a été impliqué dans le réseau d'ELEA dès son origine, comme membre créateur et créatif. Il s'intéresse aux interactions des professeurs avec les ressources de leur enseignement, plus particulièrement aux aspects collectifs de ces interactions.
Bien, merci Frédéric et merci Françoise pour votre disponibilité à répondre à nos questions. Alors, je vais parler du travail collectif des enseignants parce que les circonstances du confinement ont constitué un sacré défi pour ce travail collectif, qui est au cœur du projet des lieux d'éducation associés à l'IFE. Donc ça nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Comment penser collectif quand on promeut les gestes barrières et la distanciation physique, souvent appelée distanciation sociale? Comment penser action conjointe des enseignants ou des enseignants et des élèves dans les circonstances de l'enseignement à distance? Les témoignages que nous avons reçus rendent compte de situations très contrastées, parfois développement ou alors délitement des formes collectives sur lesquelles reposait l'ELEA dans le temps d'avant, comme on dit, mobilisation parfois des outils familiers de communication entre enseignants ou mobilisation de nouveaux outils, restriction de la collaboration à un petit groupe de collègues avec qui on est en confiance ou ouverture à de nouveaux acteurs et à de nouveaux réseaux. Au sortir du déconfinement, on est loin de se retrouver, comme vous venez de le dire, Françoise, dans la situation d'avant. Comment ce faisceau d'expériences vécues pourrait nourrir de nouvelles réflexions et déboucher sur de nouvelles façons de collaborer dans le réseau et dans les établissements scolaires avec les différents acteurs de l'éducation? Il y a là tout un tas de questions auxquelles on réfléchit et pour lesquelles on aimerait votre éclairage. Merci d'avance.
Merci Luc. Alors c'est une question très complexe. Vous savez que l'année dernière, je crois, un numéro des cahiers pédagogiques sont parus sur les enseignants connectés. Je ne sais pas si vous en avez eu
Oui.
connaissance,
Oui,
mais
oui.
c'était tout à fait intéressant. Et là, on voyait effectivement la difficulté. Alors, il y avait des enthousiasmes, il y avait beaucoup de velléités, mais on ne savait pas encore comment inscrire ces collaborations, parce que les collaborations, bon, il y en a plus ou moins, il y en a toujours eu d'ailleurs, hein, des collaborations, et toujours eu des gens qui enseignaient, qui échangeaient, et d'autres qui n'en échangeaient pas d'ailleurs, qui restaient dans leur classe. Mais disons que quand même, ça a toujours existé. Et que comment ça peut s'inscrire et surtout être fonctionnel et opérationnel, c'est la question. Parce que les équipes pédagogiques ont existé, les équipes interétablissements ont existé. Quand on a fait la jonction entre CM2, 6e, on a bien créé des connexions et des collaborations entre enseignants. Quand on a fait 3e et seconde, on a aussi créé des collaborations qui n'ont jamais véritablement, vraiment bien fonctionné. Il y a toujours eu des, comment dire, des incompréhensions. Alors, est-ce que c'était un phénomène? Déjà, on n'était pas sur la distance ni sur les gestes barrières, hein, mais déjà, on voyait la difficulté. Il n'y avait pas de, comment dire, de terrain commun. Si ce n'était au bout de 3 ou 4 mois, ce que nous avons observé, parce que c'était une innovation aussi, c'est qu'on avait abordé les pratiques pédagogiques. Par exemple, entre le CM2 et le 6e, ces collaborations entre enseignants se sont faites sur leurs pratiques. Qu'est-ce que tu fais dans ta classe exactement, tes élèves? Comment tu les mets en groupe? Comment, etc. Ah ben moi, en 6e, on fait ça, puis attention, là, on est plusieurs, mais etc. C'est vrai que déjà, les structures casse un peu la collaboration entre enseignants, mais on arrivait à des choses, mais au bout d'un certain temps. Donc la collaboration entre enseignants est quelque chose de très, très, très fragile. Très fragile et qui jusqu'à présent s'est révélé relativement éphémère. C'est tout le problème de cette collaboration entre enseignants, parce que quand on dit collaboration, je ne sais pas si la connexion à distance, hein, si on pense aux enseignants connectés comme j'évoquais, et à partir du numéro des cahiers pédagogiques, on soit vraiment dans une collaboration. Il y a quelques années, j'avais fait une étude comparative entre deux équipes pédagogiques qui se réunissaient régulièrement pour échanger sur leurs pratiques, sur les difficultés des élèves, etc. Et ces équipes-là, finalement, n'ont pas tellement, n'ont pas eu d'ancrage institutionnel, d'ancrage dans l'établissement. Une fois qu'elles sont parties, une fois les grandes vacances passées, il n'y a pas eu de renouvellement intense. C'est que finalement, je crois que la collaboration entre enseignants, elle doit être bien comprise, elle doit être bien intégrée, elle ne doit pas être plus exigeante qu'elle ne l'est. Souvent, ce qui se passe, c'est que les collaborations entre enseignants se font par affinité. Ah ben oui, tu penses la même chose que moi, donc on va pouvoir travailler ensemble. Ah ben l'autre, il pense pas comme moi, donc je pense que je vais plutôt travailler avec toi qui penses avec moi la même chose que moi. Donc là, il y a vraiment un problème. Et d'ailleurs, ces deux équipes pédagogiques que j'avais comparées, l'équipe qui était la plus affinitaire, qui même s'invitait chez eux et tout ça, c'était des équipes qui n'ont pas duré parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu énormément de mésententes, parce que toute collaboration n'est pas angélique. Hein, toute collaboration aussi, t'as un rapport de pouvoir, un rapport de place. Une présentation de face. Donc, c'est pas du tout évident, cette collaboration. Alors, ce qu'on a le plus observé et ce qu'on voit beaucoup dans le développement des technologies nouvelles, c'est que ce sont des réseaux. Des réseaux qui, ils sont horizontaux, ils ont souvent un webmaster, hein, qui permet de réguler un peu les choses et puis d'éviter qu'on dise des sottises. Mais c'est en rien structuré, voire structurant. Donc, c'est une source d'idées, comme une bourse d'échange, où on prend ce qui vous intéresse, on laisse de côté, on interroge la personne là, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Tiens, j'ai essayé ça, etc. Alors, plus le réseau est grand, d'ailleurs, et plus il risque de se déliter. Alors, nous ce qu'on avait vu dans ces collaborations, et c'est très complexe, Luc, la question que vous posez sur ces collaborations entre adultes, et pourquoi pas coopération? Pourquoi on dit collaborer et pas coopérer? Est-ce qu'il y a une nuance? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel type de comportement? Il faudrait presque analyser les interactivités entre enseignants, même par téléphone, par. Il n'y a pas eu d'études, enfin, à ma connaissance, non, je n'ai pas d'étudiants qui ont fait leur thèse là-dessus. Mais le réseau est quelque chose qui fonctionne, ça tient à assez de temps, mais ça n'a pas les fonctions qu'on pourrait avoir dans comment dire, une co-construction de nouvelles pratiques pédagogiques. C'est plutôt une bourse aux idées. C'est plutôt des conseils qu'on donne, c'est plutôt des échanges d'astuces dans le métier, c'est plutôt des amorces éventuellement de constitution d'équipes futures, mais qui ne sont pas forcément concrétisées. Ça peut être des apports d'informations, ça peut être des discussions autour de thèmes pédagogiques, ça peut être des transmissions de résultats de recherche. Bref, c'est pas vraiment ce que l'on pourrait appeler la collaboration, qui est vraiment la co-construction, enfin je la vois comme ça, hein, la co-construction de quelque chose qui serait commun, hein, quitte même à échanger nos élèves. Bon, il y a une espèce de méfiance à vouloir aussi tout donner. Il y a une réticence à un moment donné de tout donner ce que je fais. Maintenant, on accepte. Mais combien d'années n'a-t-on pas mis pour demander à un collègue d'aller dans la classe d'un autre? Ça a été extrêmement compliqué. Il y a une espèce de réticence qui fait ma classe, mon cours, ma discipline. Bon, ça se casse. Il faudrait presque une deuxième pandémie pour casser ça. J'exagère, hein, c'est vraiment une boutade. Alors, par rapport à la collaboration entre enseignants, il y a peut-être une question qui peut se poser, parce que dans les Léa, mais je ne sais pas, peut-être vouliez-vous me poser la question, c'est la place de la recherche qui peut faciliter une certaine collaboration. Est-ce que c'était aussi votre intention de poser une question sur la place de la recherche?
Bon, ça en fait partie, oui, bien sûr.
D'accord, parce que je crois que la recherche, elle peut aider, parce que finalement les Léa dont vous êtes à l'origine sont nées de l'intention de mettre en collaboration des chercheurs et des équipes d'enseignants finalement, hein, pour sur des pédagogies nouvelles. Et moi, je suis assez, comment dire, interrogative sur, j'ai eu connaissance de la mise en œuvre de ce qu'a fait l'Institut Carnot en éducation, qui se déroulait également à Lyon. C'était un petit peu la même chose, ça m'a intéressée. Et c'est, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est à la suite de toutes les recherches qui ont été menées à l'INRP jadis dans les collèges expérimentaux, où des chercheurs se mettaient à disposition des enseignants pour les aider, pour tenter de nouvelles pratiques, en les analysant, en les plaçant en relation avec les résultats de recherche et en produisant à l'occasion des supports pédagogiques. J'ai retrouvé ça dans les Léa. Alors, plusieurs établissements, d'ailleurs, étaient engagés sur la même problématique. Donc, on se retrouve dans des réseaux d'établissements. Et de nombreux travaux, d'ailleurs, ont été écrits à ce sujet, en lien entre les lieux d'éducation, les équipes de chercheurs. Et on appelait ça, d'ailleurs, recherche-action, recherche-formation, recherche-collaboration, etc. Donc, il y a eu des tas d'appellations. Mais la crise que nous venons de vivre illustre à merveille la manière dont la transformation des pratiques pédagogiques s'est faite. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus les enseignants qui ont entraîné les chercheurs, qui les ont boostés, je dirais. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir, je disais tout à l'heure à la collègue que les inspecteurs étaient singulièrement silencieux, mais les cardis aussi. On a très peu entendu les cardis, qui pourtant jouent le rôle aussi de lien entre les enseignants et les chercheurs, avec une médiation de formateurs. Donc, le problème est que le système éducatif crée des structures différentes pour jouer un rôle identique avec une perte d'énergie que jamais ne sont confrontés entre eux. C'est-à-dire que la collaboration entre enseignants, elle est prise soit par les CARDI, soit par l'Institut Carnot, soit par les Léa, soit par d'autres organismes. On a du mal à avoir une certaine lisibilité. Alors, qu'est-ce que ça pourrait apporter ce confinement finalement dans les Léa? Ben, des possibilités de réflexion sur ce qui s'est passé, notamment en matière d'enseignement et d'accompagnement à distance, de la relation avec les parents d'élèves, souvent sollicités, de la place de l'école dans la société, des innovations possibles engendrées par le confinement et leur éventuelle pérennisation. Donc, il est intéressant d'ailleurs d'observer que ce rôle de la recherche vis-à-vis des enseignants crée, comment vous dire, une sorte d'opacité et d'interrogation sur le rôle de la recherche. Et nous-mêmes, Luc et vous-même, et Valérie, je crois, qui sommes enseignants, nous avons ce rôle incertain qui est celui de où se positionne-t-on Dans quel camp se trouve-t-on? Est-ce qu'on se trouve dans la recherche qu'on dit pure et dure, dans la recherche qu'on appelle molle, mais qui est une recherche plutôt d'accompagnement, qui est une recherche d'essayer de co-construire un objet de recherche et qui serait mené, mais comment? Et c'est là qu'est toute la difficulté. Ou alors, est-ce que nous sommes dans une situation en surplomb, au-dessus de? Et d'ailleurs, c'est intéressant que le ministère de l'Éducation opte ces décisions. Mais quand je dis ministère de l'Éducation, je veux dire le gouvernement, parce que ça a été pareil pour la crise, et la crise nous l'a bien montré, qu'on se base sur des conseils scientifiques, sur ce que Blanquer appelle, et est très content de nommer cela, « evidence-based approach ». C'est-à-dire que moi, je prends des décisions à partir du moment où il y a des preuves scientifiques. Bon, on sait que chez nous, les preuves scientifiques sont assez ténues, puisqu'il s'agit plutôt d'une démarche et d'une compréhension des objets. Donc le Covid-19 a porté l'exemple criant que les résultats des sciences non dures, sociales. Or, le conseil scientifique Emmanuel Macron a nommé est un conseil scientifique disparate, composite. Il y a des scientifiques en médecine, il y a des scientifiques en biologie, il y en a en épidémiologie, il y en a en sociologie. On se retrouve vraiment dans un conglomérat de chercheurs qui, une fois qu'ils sont amenés à décider ce que sont les acteurs, il faut qu'ils agissent et qu'ils décident, c'est le rôle des enseignants, eh bien, n'arrivent pas, ne peuvent pas. Et c'est normal que les chercheurs n'aient pas la position même de conseiller. Qu'est-ce qu'un conseiller peut, un conseiller scientifique peut dire à un enseignant? C'est toute la difficulté de cette articulation. Si on veut une collaboration, c'est toute cette articulation. La seule chose, je pense, qui puisse être faite dans la collaboration avec les chercheurs, entre enseignants et chercheurs, ce serait effectivement de co-construire des interrogations, de co-construire des réflexions, de les expliciter, de renvoyer aux enseignants en termes de réflexivité un certain nombre de choses qu'ils font, mais c'est bien eux, in fine, qui prendront la décision d'agir. Le chercheur, finalement, n'est pas en une position de collaboration. C'est pour ça que le terme collaboration m'a toujours un peu gêné. Celui de coopération peut quelquefois jouer dans le sens où on co-construit quelque chose, mais on n'a pas le même positionnement. On n'a pas la même place dans l'équipe, dans le réseau. D'ailleurs, cette fonction du chercheur, qui n'est pas l'unique fonction, cette fonction de chercheur, elle peut aider effectivement l'enseignant lui-même à avoir une attitude et une démarche de recherche, à se poser un certain nombre de questions avec rigueur. Par exemple, lorsqu'ils disent « on n'a pas d'autonomie pédagogique ». D'accord. Alors expliquez-moi ce que vous entendez par autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En quoi c'est pas autonomie, en quoi c'est, et d'essayer d'aller au maximum, d'approfondir les choses. C'est-à-dire que, bon, je reprends le mot des Africains, si tu veux aider une personne, apprends-lui à pêcher plutôt qu'à lui donner un poisson. C'est pareil. Donc là, le chercheur, il fait rentrer l'enseignant beaucoup plus dans un processus d'interrogation, de compréhension de ce qu'il fait, avec des apports bien sûr théoriques. Mais je vais dire par là que c'est beaucoup plus... D'ailleurs, c'est intéressant, dans cette collaboration, il y avait une idée, je me rappelle, c'était avec des collègues sur la conférence de consensus. On en a eu beaucoup dans l'Académie de Lyon, et elle en a apporté la preuve. Parce que les chercheurs venaient donc dialoguer en face de formateurs et d'enseignants sur leurs recherches. Et les enseignants et les formateurs se sont aperçus que les recherches ne se ressemblent pas. Elles ont beau quelquefois avoir un même objet de recherche, eh bien elles ne se ressemblent pas selon la manière dont on a mené la recherche, les objets de recherche tels qu'ils sont précisés, et ils ne correspondent pas de toute manière à la complexité de la réalité. Donc la recherche, elle ne correspond pas au vécu, à la réalité vécue par les enseignants, et donc c'est à eux de construire, et il y a une espèce de positionnement. Donc quand on dit collaboration entre chercheurs et enseignants, entre enseignants on l'a vu, entre chercheurs et enseignants, c'est, comment vous dire, c'est assez complexe et je ne crois pas qu'il n'y a pas le même positionnement. Un chercheur qui vous dirait « je suis comme un enseignant », même un chercheur enseignant, hein, et vous l'êtes et je le suis, elle n'a pas le même positionnement vis-à-vis de l'équipe pédagogique. Et ce serait démagogique de le reconnaître. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai travaillé avec un des collègues que vous connaissez tous, je suppose, qui est André Tricot. André Tricot a sorti un livre que j'ai trouvé tout à fait impertinent et tout à fait intéressant. C'est celui de… le titre est tout bête, il est « Innovation pédagogique ». Et il a dit, bon, ben regardons ces innovateurs, hein, et son sous-titre, c'est « Mythes et réalités de l'innovation ». Et il dit, ben regardons ces enseignants qui nous disent, voilà, moi maintenant, je fais une innovation, je fais travailler mes élèves en groupe. Bon, vous direz que ce n'est pas très récent, mais bon, j'ai fait travailler en groupe, j'ai fait travailler à distance, etc. Et il dit, bon, ben, mais vous tenez ça d'où? Mais des chercheurs ont montré que… le travail en groupe était bénéfique, mais à quelles conditions, etc. Et il en arrive à voir que souvent les enseignants sont beaucoup plus influencés par des effets de mode. Je parle à ma voisine, qui parle à une autre voisine, un peu le téléphone arabe, comme on pourrait dire. Et donc, il y a des effets de mode et des effets d'influence. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on prend la surface des choses sans les creuser. Et on voit à quel point l'ensemble des recherches qui ont été menées, par exemple, sur les travaux de groupe, même en psychosociologie, avec Anne-Mélie Père et Clermont déjà au démarrage, et tous ces gens-là, on se rend compte que finalement, ce n'est pas si simple. Et que ce n'est pas parce qu'on fait travailler les élèves en groupe que forcément, on va avoir un meilleur apprentissage. Donc, tout est une question, je dirais, de réflexion, de mise à distance. Et je pense que là, il y a un questionnement à avoir entre le rôle des enseignants et le rôle des chercheurs. Et que cette collaboration, moi, alors là, je voudrais bien avoir une réponse, je suis vraiment très demandeuse, je m'interroge beaucoup sur les types d'interactivité, je ne connais pas de recherches qui ont été menées là-dessus, mais ce serait superbement intéressant d'en conduire une. En tout cas, Luc, vous m'avez interrogé au plus profond de mon identité.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Mais du coup, quand même, je vais pouvoir passer la parole à Sophie Roubin, qui est professeure de mathématiques en collège. Elle a contribué à la chaire UNESCO au sein de l'IFE. Elle est chargée de mission dans le réseau d'ELEA depuis 2 ans, où elle aide également à la coordination. Mais en fait, elle est impliquée depuis 2011, c'est-à-dire depuis l'origine. Voilà.
Bonjour. Donc, je suis chargée d'interroger sur le dernier thème de la rencontre, donc l'innovation et le temps de crise. En 97, vous écriviez dans une note de synthèse « L'innovation ne se transmet pas comme une épidémie. Qu'en dire dans le contexte d'aujourd'hui ? Ce moment de crise voit l'émergence de potentielles innovations. On peut donc appréhender l'innovation en train de se faire. Ça semble intéressant pour saisir l'aspect social du phénomène. Quel lien peut-on faire entre innovation et éthique ? Où situer l'idée de bien commun ? De quelle innovation parle-t-on ? S'agit-il d'une innovation technologique ? D'une innovation pédagogique, ou les deux? Y a-t-il une spécificité de l'innovation en temps de crise? Entre le politique et les acteurs, selon les périodes de crise ou les périodes stables, qui innove? Est-ce que ce sont les mêmes qui en bénéficient? On entend souvent la question « que retenir de ce temps de crise ?» Comment organiser la réflexion autour de cette question? À l'échelle nationale, régionale, à l'échelle de chaque établissement, de chaque équipe éducative, à l'échelle de la classe, à l'échelle individuelle. Comment cette question peut-elle être travaillée par les équipes de pilotage? Donc c'est large.
Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est vrai qu'on brasse des questions très importantes, hein, et vous avez raison de les poser. Je crois déjà que partiellement j'ai répondu sur l'innovation, parce que finalement c'est une innovation, je ne vais pas dire de contrainte, hein, mais c'est une innovation qui est née par la possibilité de faire autrement, quoi. Une apparition forcée, et que finalement ça a été un fantastique. Moi quelquefois je dis l'innovation elle peut être violentée, hein, c'est pas comment dire quelque chose de fragile, Les gens innovent quand ils sont quelquefois le couteau sur la gorge. Quand je disais en REP, l'enseignant qui arrive, qui pose son cartable et qui voit des élèves survoltés qui grimpent au rideau, il ne va pas se mettre à faire son cours, quoique j'en connaissais. Agnès Van Zantel m'a dit d'ailleurs que dans certains ZEP, il y avait l'enseignant qui disait « qui veut travailler avec moi ce matin ?» Il y avait trois élèves qui étaient devant et derrière, ça tapait la belote, ça jouait, etc. Il faisait cours avec les trois élèves. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit un métier très agréable à exercer comme ça. Donc, c'est vrai que l'innovation, elle est quelque chose qui perturbe. Mais on prend des risques parce qu'on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix, on fait l'enseignement à distance. Mais je suis sûre qu'il y a dû y avoir des couacs, hein, des enfants. Bon, les couacs qu'on a évoqués, alors là, dont les journalistes se sont emparés, c'est les milieux défavorisés, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas d'Internet, ils n'ont pas, etc. C'est vrai que là, les inégalités sociales sont apparues de manière extrêmement criante. Et sans doute que certains enseignants n'avaient pas pris conscience de cela. Et donc, ça va jouer dans leur pratique pédagogique future. Enfin, j'ose l'espérer, hein. Donc, mais c'est pas cela dont je vais évoquer. On va imaginer que tous les élèves avaient accès à l'ordinateur et que finalement ils pouvaient travailler sur l'enseignement à distance. Ce qu'il y a, c'est que les enseignants ont improvisé, ont imaginé. Il y a eu pas mal d'organismes qui ont soutenu, y compris le CNED. Il y a eu pas mal de... Moi, j'ai interrogé mes petits-enfants qui m'ont dit « Mais écoute, franchement, je suis ravie parce que je vais sur des méandres que je n'aurais jamais connus, jamais imaginé quand je suis au collège ou au lycée. » Donc là, il y a eu quelque chose de... Il y a eu un petit étayage pour les enseignants. Il y a eu en temps de catastrophe, je ne vais pas dire vraiment de catastrophe, mais de panique, on téléphone à son collègue. « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais ?» Bon, là, il y a eu vraiment un échange entre enseignants, mais un échange beaucoup plus utilitariste. « Dis-moi comment tu fais? Envoie-moi le logiciel, envoie-moi le document, envoie-moi le lien, etc. » Donc, on s'est retrouvé devant une innovation qui n'était pas une innovation, je dirais, ordinaire, comme dit Norbert Alter. C'était une innovation tout à fait qui se détachait, comme je disais tout à l'heure. Qui aurait pu imaginer qu'on mette le bac en contrôle continu? Même l'année dernière, on l'aurait mis cette année, on avait les gens dans la rue. C'est affolant. Quand on aurait parlé de l'enseignement à distance, on aurait dit, mais les enseignants sont fainéants, ils ne veulent rien faire. Et là, on arrive à quelque chose qui, moi, vraiment m'émerveille. Je trouve que c'est une situation pour l'innovation qui est extraordinaire. Alors, comme vous le disiez, il faut interroger cette innovation, hein, parce qu'on ne peut pas s'émerveiller devant et puis rester devant comme ça, parce qu'il y a certainement des défauts, il y a beaucoup de questions à poser. Alors, comme vous le disiez, est-ce que c'est une innovation technique ou une innovation pédagogique? Bon, je dirais que ce n'est pas aussi séparé, hein, parce qu'il a bien fallu à un moment donné que les enseignants, ils imaginent leurs cours. Nous, on avait eu, et je pense que Luc et notre collègue a dû connaître ça, nous avons eu à faire des MOOC pour nos étudiants. Eh bien, je vous assure que les MOOC transformaient nos contenus, nos cours, même les TD, les TP en MOOC, ce n'était pas du tout évident. Donc, il a fallu tout redécouper, imaginer la personne au bout, à l'ordinateur, comment elle penserait, comment elle pourrait réagir, les cheminements et tout ça. Ça a vraiment été une réinterrogation, une interrogation complète du métier, de l'exercice du métier. Au fond, comment je faisais pour que les élèves apprennent telle ou telle formule, découvrent telle ou telle lecture. Comment je faisais au fond et comment je peux faire avec cet appareil? Alors l'appareil, je crois que là, avant on aurait pu dire que ceux qui utilisaient le numérique avant la crise étaient des gens, je ne veux pas dire des snobs, mais des gens qui disaient « je me démarque et je suis moderne ». J'utilise, il y a des nouveaux, on est dans l'EMT, l'environnement numérique, l'environnement, donc il faut se mettre à la mode, on ne pourra pas revenir en arrière, ces pédagogues qui ne veulent pas utiliser l'ordinateur, etc., etc., le tableau blanc, ça leur fait peur, enfin bref. Donc il y avait ça avant, mais maintenant, c'est plus tout ça. Maintenant, on l'intègre dans sa pédagogie, et je crois que là, ça ne devient qu'un moyen et un support pour la pédagogie. Et c'est ça qui est intéressant. Ce que finalement a réalisé le Covid, c'est qu'on a pu intégrer le technologique dans la pratique pédagogique de l'enseignant. Et ça a eu un effet sur la forme d'apprentissage des élèves aussi. Parce que les élèves se sont familiarisés. Ils ont pigé. On avait commencé, ça me fait toujours rire, parce que quand j'étais allée à Ludovia l'année dernière, on avait une révolution, soi-disant, qui était la classe inversée. avec, eh ben, André Tricot y était, disait la classe inversée, souvent les enfants utilisaient mal l'ordinateur, surtout à l'école primaire, donc on envoyait des petites, comment dire, du son. Il y avait l'enseignant qui racontait une petite histoire et puis qui posait des questions et tout, et puis on se retrouvera en classe. Et André Tricot avait dit, mais il y a des auditifs, il y a des visuels, ça pose des problèmes, c'est très difficile, etc. Et là, je trouve que la classe inversée, mais c'est une miette, une infime partie de la révolution innovante qu'on vit là, maintenant. On n'a pas eu le choix. Et là, ça redéfinit les métiers. Je trouve que c'est absolument extraordinaire, cette redéfinition du métier à travers l'innovation. Et je le dis souvent que innover, c'est développer de nouvelles compétences. Alors, sans doute que les gens n'osaient pas prendre le risque. Et puis, ils se disaient, si je mets la main dans l'engrenage, il va y avoir un inspecteur, un chef d'établissement qui va dire, bah, madame Trucmuche, vous avez commencé ça, bah, continuez donc à le faire, puis montrez-le aux collègues, etc. Et il y a des enseignants qui ne voulaient pas du tout être dans cet engrenage. Là, ça a été massif, il n'y avait pas quelqu'un qui disait, vous n'avez qu'à faire ça, faites donc ça, mais faites, il y avait une initiative. Et je vais même jusqu'à dire, je crois que je l'ai mis dans le papier là pour les Suisses, que c'est la hiérarchie renversée. C'est les enseignants, finalement, qui prenaient les décisions, qui gouvernaient le système éducatif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de journaux qui ont dit, mais en plus de ça, l'école, ça marche. Mais ils croyaient bien que ça allait se casser la figure, que ça n'allait pas marcher. Et là, les débuts de l'école montrent bien à quel point les enseignants sont quand même, je dirais, des êtres merveilleux, vraiment. Bon, ils sont extraordinaires. Et je crois que ce qui sera nécessaire, c'est un grand débriefing de tout ça. Dans chaque établissement, et même inter-établissement, au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on peut redéfinir notre métier? Comment on peut le redéfinir en termes de réseau aussi? Quand j'ai appelé les collègues, je l'ai appelé en urgence, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert cette collègue, j'ai vu, etc. Parce que finalement, dans ces cas de crise, il y a une peur qui s'installe et qui fait qu'on donne des choses qu'on ne donnerait pas si on était en situation rassurée, en situation calme. Et là, l'innovation a été une révélatrice d'abord des compétences des enseignants, car ils en ont. Ils ont été capables quand même de faire cet enseignement, alors qu'on pariait peu. On se disait non, ça va. En plus de ça, ils ont formé les parents. Souvent, ça a été une co-éducation. Souvent, les parents tentaient de faire quelque chose, disaient « demande à ton maître, demande à ta maîtresse, demande à ton prof, comment on fait ça, etc. » Et les parents, finalement, se sont impliqués dans l'école. Ils ont compris, comme je le disais au début, ils ont compris qu'un enseignant, c'est indispensable, l'école, c'est indispensable, mais qu'en plus de ça, je comprends une intercompréhension entre mon métier, moi, de parent d'élève, et le métier d'enseignant. Et ça, ça a été, je pense, quelque chose qui va être difficile à revenir en arrière, mais il faut toujours mettre des conditions. Nous ne sommes pas sûrs à 100% qu'il n'y ait pas un retour en arrière. On dit non, je reprends mes billes, parce que quand même, quand on imagine le Covid a duré quand même quelques mois. Imaginons depuis le mois de début mars jusqu'à maintenant. Ce n'est pas suffisant, comme je le disais au début, pour qu'une innovation se routinise, pour qu'elle devienne quelque chose qui serait institué. L'enseignement à distance et la prise en compte n'est pas dans les règlements, n'est pas dans les statuts, n'est pas encore dans les lois, n'est pas dans les contenus de formation. Il y a très peu de choses. À l'IUFM, quand on regardait, il n'y avait pratiquement pas de module sur le numérique. Dans les ESP, il y en avait un petit peu plus, mais guère plus, avec des diplômes et des mini-diplômes. Donc, on se retrouve là, il n'est pas sûr. Donc, c'est là où nous sommes sur une, comment dire, sur une crête. De quel côté va-t-on basculer? C'est entre les mains des enseignants. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Ah, si, vous avez très bien répondu. Vous avez même posé plein d'autres questions.
Oui, j'imagine. Moi aussi, je me les pose.
Oui, tout à fait, ça ouvre d'autres perspectives encore.
Oui, c'est formidable. Et vous faites bien de faire cette rencontre-là, parce qu'elle arrive à point.
Ah, merci. Mais bon, hélas, on arrive quand même à la fin de notre temps de conférence. Du coup, je vais repasser la parole à Luc Trouche pour peut-être compléter, conclure cette journée.
Je crois que j'ai fait la conclusion aussi parce que je voulais uniquement parler dans la conclusion et le temps passe, de la déprofessionnalisation et de la reprofessionnalisation des enseignants. C'est-à-dire que là, c'est le moment de réinterroger sa professionnalisation et la formation continue. C'est le moment justement de redéfinir son métier et même d'en assurer, de, je dirais, de le consolider dans une société qui maintenant a compris l'utilité des enseignants. Et donc là, ils ont, à mon avis, là, je dirais, un boulevard pour pouvoir s'affirmer et défendre une formation continue. Je vous laisse la parole.
Bon, merci. Bon, merci beaucoup, Françoise, pour toutes ces réponses et les éclairages qui permettent de voir différemment peut-être certaines questions que nous posions, et en tout cas qui vont donner beaucoup d'éléments pour la prochaine rencontre virtuelle la semaine prochaine et pour le redémarrage des Léas. Alors, je vais reprendre les quatre points très rapidement, en reprenant quatre mots, le mot d'institution, le mot d'émancipation, le mot de coopération et le mot d'innovation, qui correspondent aux quatre questions qui ont été posées. Alors, je pense que vous avez bien répondu à nos attentes. Ce que je retiendrai sur le mot d'institution, c'est l'expression très forte que vous avez reprise en disant « nous sommes l'institution, les acteurs de l'éducation, nous constituons l'institution ». Et il y a beaucoup de formes instituées, et une institution se constitue par couches successives, par réorganisations successives, et on doit penser les nouvelles formes instituantes à partir des circonstances tout à fait exceptionnelles qu'on a vécues. Alors, je n'en dirai pas plus, que je voudrais insister peut-être davantage sur les questions d'émancipation. En quoi ce qu'on a vécu ensemble et séparément pendant 2 mois, 3 mois, a des vertus émancipatrices. Alors, vous avez parlé d'étranges ruses de l'histoire, vous avez parlé de choses qui naissent de contraintes et qui se développent par la lutte. Alors, j'ai peut-être simplement une petite nuance à introduire à propos de l'analyse de ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Alors, les enseignants ont été, en effet, pour ce qui concerne l'éducation, les premiers de tranchée, comme les personnels de santé ont aussi été les premiers de tranchée dans leur domaine. Ça veut dire qu'on assistait à un engagement extraordinaire, mais en même temps à des difficultés considérables. Et vous l'aviez forcément en tête, mais je voudrais insister sur ce point parce qu'on connaît les souffrances aussi qui ont été engendrées par ces moments. Le fait d'enseigner qu'à 30% des élèves à distance, parce que pour les 70% d'entre eux, et surtout dans certains quartiers difficiles, les enseignants n'ont pu qu'imaginer les difficultés rencontrées par les parents et par les élèves. Et tous les courriers du monde n'ont pas suffi à gommer ces différences qui sont des différences sociales et qui sont devenues des gouffres. Et qu'il est probablement, qu'il va être difficile aujourd'hui de travailler, de réparer. Et alors, il y a eu ces aspects sociaux, les aspects techniques aussi, il ne faut pas les sous-estimer. Combien d'enseignants n'ont pas pu se connecter à la plateforme nationale proposée par l'institution en termes d'organisation? Combien d'enseignants ont dû se battre contre leur hiérarchie qui leur interdisait d'utiliser telle ou telle plateforme parce qu'elle n'était pas labellisée? Et donc, il paraissait parfois plus légitime d'utiliser quelque chose d'officiel qui ne marchait pas plutôt d'utiliser quelque chose de non officiel qui pouvait marcher. Donc, les enseignants ont expérimenté tout ça. Ça a été une école de lutte aussi, une école où ils ont découvert leur potentiel, leur légitimité. J'ai bien aimé le mot de hiérarchie inversée que vous avez évoqué. Donc là, il y a eu une émancipation, et comme toute émancipation, elle s'est heurtée à des obstacles très forts. Et l'enjeu aujourd'hui est en arrivant dans cette situation de déconfinement progressif, provisoire, tempéré, de garder cette force émancipatrice pour continuer dans une logique qui repose sur la volonté des gens, sur les besoins qu'ils expriment et sur leur compréhension des besoins des élèves et de la société. Le troisième mot, c'est coopération. Alors, vous avez dit des choses que nous ressentons fortement, et vous avez évoqué une expérience, qui est l'expérience de l'Institut Carnot. Eh bien, justement, nous étions dans cet Institut Carnot avec Sophie, qui a posé la dernière question, avec Catherine aussi, Et nous portions un projet qui s'appelait PREMAT, penser les ressources des enseignants de mathématiques dans un temps de transition. Et on a montré comment, faire face à des changements de programme, y faire face supposait d'envisager de construire d'autres modes de travail des enseignants sur la base de petites fabriques qui coopéraient entre elles. Ces petites fabriques, c'était des collèges, des écoles primaires, des équipes de recherche. Et c'est comme ça qu'on a montré comment ces petites fabriques étaient en même temps incubateurs d'innovation et de pratiques, dans lesquels les chercheurs ont beaucoup appris. Bon, évidemment, je suis d'accord en tant que chercheur avec ce que vous avez dit sur un chercheur qui n'est pas, loin d'être un donneur de leçons, un chercheur, quelqu'un qui a appris. Nous avons tous appris beaucoup de ces dispositifs qui sont constitués. Et on pourrait là aussi comparer le Conseil scientifique de l'Éducation nationale, notre ministre a constitué avec une pluralité de chercheurs, quand même beaucoup dominé par les chercheurs dans le domaine des sciences, des neurosciences, et le Conseil scientifique dans le domaine de la santé. Et même ce Conseil scientifique dans le domaine de la santé, on peut critiquer les choix qu'il a fait, le rôle qu'il a joué, mais il était là, on l'a entendu. Et donc, tous les chercheurs du domaine peuvent dire aussi, eh bien, je ne suis pas d'accord, ou se positionner vis-à-vis de cela. Et je crois que dans le domaine de l'éducation, on gagnerait aussi à avoir un Conseil scientifique qui ne travaille pas en vase clos et donne finalement ce qu'il retient de ce qu'il faut faire, mais qui rende public ces discussions et qui montre qu'il sait construire un lien vivant avec les acteurs de l'éducation, qui sont les enseignants, les chercheurs, les formateurs, etc. Que ce soit pas uniquement un lien entre un conseil scientifique nommé par le ministre et le ministre. D'autant que le ministre, au même moment, dans ces dernières années, a supprimé des instances indépendantes d'évaluation de ces politiques. Là, il y a une démarche à retrouver et qui ne revienne pas au temps ancien. Et enfin, un dernier point, c'est l'innovation. Bon, vous avez beaucoup dit de ce qu'on pouvait penser de cette très longue expérience de l'éducation en France et dans le monde, qui s'est toujours nourrie d'évaluations qui se sont routinisées, qui ont été re-questionnées. Et j'ai bien aimé l'expression de grand débriefing que vous avez évoqué, parce que c'est en effet ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors, s'agit-il d'états généraux ou de grandes rencontres, mais je ne pense pas qu'on puisse imaginer qu'on va revenir de déconfinement progressif en déconfinement progressif à finalement une réinstitution de ce qui existait avant. Donc là, il y a beaucoup de choses qui ont été construites et je pense que les acteurs ne se laisseront pas reconfinés dans leurs établissements après avoir été confinés dans leur domicile. Alors, trouver de nouvelles formes instituantes pour valoriser et transformer en positif et en nouvelle routine peut-être ce qui a été vécu, ça me semble être un enjeu. Et vous avez, merci d'avoir éclairé ces formes possibles du grand débriefing et ces processus de nouvelles formes instituantes à penser entre nous. Merci.
Merci beaucoup. Je partage tout à fait vos remarques.
Merci.
Eh bien, du coup, merci à tous. Je vous remercie donc de vos questions, vos réponses. Nous nous retrouvons donc mercredi 27 mai.
Vous m'avez enrichi.